Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, j'ai intitulé ce sermon « L'homme est-il un composé chimique vivant ?» Et à la fin du sermon, je vous proposerai un test de personnalité pour savoir si je peux vous accepter dans la vie religieuse. Et si je reçois suffisamment de réponses aux tests de personnalité par des jeunes hommes et des jeunes femmes, j'ai l'intention d'ouvrir une agence matrimoniale. Pourquoi revenir sur ce sujet? Parce que je vais parler de nouveau de la méthode des tempéraments. La première raison, c'est que saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, je dis bien théologique et non pas philosophique ni psychologique, dans sa somme théologique, étudie non seulement l'âme humaine, l'intelligence, la volonté, mais également la sensibilité, les sens, et puis il descend jusqu'à analyser l'aspect végétatif de l'homme, sa nutrition, sa croissance. Si saint Thomas d'Aquin étudie cela, c'est qu'il y a une raison. La raison, nous la trouverons au début de l'étude de la morale, celle que je ne vous ai pas encore faite, puisque j'ai commencé mes séries de sermons par la morale, oui, mais directement par les vertus. Et donc, au début de la morale, saint Thomas d'Aquin étudie quels sont les actes volontaires dans la vie d'un homme, les actes non volontaires, ceux dont il doit répondre au jugement de Dieu et ceux dont il ne répondra pas. Et puis il étudie les passions humaines, les passions qui sont le fruit direct de la sensibilité. Bien sûr, il ne revient pas sur l'étude de l'aspect végétatif de l'homme, parce qu'il a posé les distinctions. Si on a mal posé les distinctions, on donne des mauvaises réponses. Et c'est ce qui se passe avec les partisans de la méthode des tempéraments, des tests de personnalité, et de toutes les méthodes faussement psychologiques et plutôt américaines qui fleurissent aujourd'hui. Or, à la suite du dernier sermon, plusieurs d'entre vous m'ont fait remarquer qu'il y aurait vraiment la place pour un sermon encore plus précis qui complète le précédent. Vous avez tous apprécié l'étude que je vous ai donnée sur la méthode Montessori. J'en profite pour remercier le collaborateur dont j'ai traduit en grande partie le texte et que je n'ai eu qu'à compléter simplement. Et puis, en discutant avec les uns et les autres, je me suis bien rendu compte que mes arguments n'avaient pas convaincu tout le monde, loin de là. Alors il est temps de revenir sur le sujet. Première partie du sermon, pourquoi l'homme a-t-il des sens? Le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Et nous verrons même qu'il a des sens comme la mémoire. Mais ça sera pour un autre sermon. Réponse de saint Thomas. L'âme intellectuelle n'a pas une connaissance innée de la vérité comme les anges. Et nous ne naissons pas avec la connaissance de la vérité. Nous ne naissons pas avec la connaissance de Dieu, avec la connaissance du prochain, etc. Cette vérité, il doit, à l'aide des sens, la sensibilité donc, il doit la recueillir de la multiplicité des choses. Alors je vais vous donner un exemple. L'exemple des portails des églises romanes et gothiques. Les prêtres du Moyen-Âge se sont adaptés aux gens simples et leur ont fait un catéchisme à travers des représentations sensibles. Vous avez non seulement les représentations du jugement dernier, qui sont sensibles, enfin quand même très expressives et théologiques, mais vous avez également les représentations des travaux des mois et des saisons. Que voit un enfant qui entre à l'église et passe sous le portail roman ou gothique et voit toutes ces belles sculptures, il voit un livre d'images, donc les sens. Et puis, vous savez bien, je vous dirai comment plus tard dans un autre sermon, vous savez bien qu'à travers de ce livre d'images, il découvre des vérités. Il découvre des vérités comme le courage au travail, comme le caractère très transitoire des choses, des activités humaines par rapport à l'éternité de Dieu, l'éternité du Christ dans le tabernacle, etc. Le Christ a fait la même chose avec nous, avec les gestes liturgiques, les cierges, l'encens, les ornements, les autels, la configuration de l'Église, les couleurs, les lumières, tout ça parle si bien aux enfants et puis même aux adultes d'ailleurs. Or, vous savez très bien que tous ces gestes, qui ne sont que des gestes, hein, que des couleurs, que des choses comme ça, uniquement le sensible. Je n'ai pas parlé des textes liturgiques qui viennent compléter. Tout cela vous fait découvrir l'encens, la majesté de Dieu, la béatitude, parce que ça sent bon, et puis après ça, les couleurs, l'harmonie. Vous découvrez un tas de choses, pas seulement des vérités rationnelles, humaines, mais également cela vous porte à la prière et nourrit la prière. C'est ce que Dieu a voulu, en dessous des anges. Bien, ceci posé, cette opération de prise de connaissance des réalités sensibles, voir les couleurs et tout le reste, s'accomplit au moyen d'un organe, et non pas au moyen d'une qualité corporelle. Ce n'est pas parce que vous êtes gros, parce que vous transpirez, que vous êtes humide, sec, que vous comprenez les choses et que vous voyez les couleurs. Un organe, les yeux, le cerveau, mais voyez non pas le corps en tant que tel, dans ses qualités corporelles. Donc, je vous l'ai dit, gros, grand, mou, et pas même colérique, mélancolique, sanguin, flegmatique, et les quatre tempéraments. C'est pas ça qui vous fait voir les couleurs, c'est pas ça qui vous fait entendre l'orgue. Ces qualités corporelles sont requises seulement pour que l'organe soit en bonne disposition. C'est-à-dire que si vous mourrez de soif, il est probable que l'organe du toucher, du goût, sera atteint, peut-être même l'organe de l'ouïe, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Alors j'en profite pour poser une petite question. Puisque les sens sont au service de la découverte de la vérité, alors pourquoi les animaux ont-ils des sens ? Ça devrait être réservé à l'homme, puisque lui seul peut découvrir la vérité. Réponse, ce n'est pas pour eux, mais pour l'homme. Parce que la découverte du monde animal participe à la découverte de la vérité par l'homme. Lisez l'entomologiste Fabre, et vous verrez que rien qu'à lire la vie de toutes petites bêtes, comme des guêpes, vous élève jusqu'au créateur de la nature et vous met dans l'admiration. Bien, deuxième partie du sermon, elle sera très brève. L'homme a-t-il des activités en dessous des sens ? Et nous avons déjà posé le principe, on analyse l'homme en partant de l'âme humaine, donc de l'intellect, et puis on comprend le corps à partir de l'âme. Maintenant que nous avons posé ce principe, il est tout à fait légitime de descendre et de descendre jusqu'en bas. Et la réponse de saint Thomas, elle est évidente. Et le caractère gros, humide, gras, mou, sec, chaud, et puis même sanguin, phlegmatique, tout ce que vous voulez, ces qualités sont des qualités strictement corporelles qui requièrent une activité qu'on appelle végétative. Saint Thomas dit l'assimilation nutritive et les opérations consécutives, à savoir la croissance et la génération. Cette activité, précise-t-il, a pour objet seulement le corps uni à l'âme, bien sûr, parce que sinon ça serait un cadavre. Mais le corps, saint Thomas s'étend un petit peu sur l'analyse de ses activités, pourquoi, comment. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, c'est ce qui va nous retenir. Et nous passons à la troisième partie de ce sermon, à savoir les quatre tempéraments. Cette fois-ci, je vais vous les étudier. Alors là, j'espère que vous, vraiment, vous aurez compris. C'est à ce niveau végétatif que se situent les quatre tempéraments. Vous voyez, j'espère que vous me comprenez bien, les quatre tempéraments ne sont pas au niveau de l'intellect, on est bien d'accord, ni même au niveau de la sensibilité. Des sens, c'est au niveau de l'activité végétative, et principalement de la nutrition, du développement. Alors voici pourquoi, une nouvelle fois, je vais condamner la méthode des tempéraments. J'ai essayé de mettre un petit peu d'ordre pour que vous ayez des arguments bien précis. Tout d'abord, on ne peut pas mettre l'humanité en quatre cases. Alors on me fera une objection, qu'on fait très fréquemment. Les quatre tempéraments se multiplient à l'infini selon la proportion des humeurs. Ça, c'est vrai. Mais la réponse est celle-ci. Ce n'est pas ainsi que procèdent les partisans de la méthode des quatre tempéraments. Ils classent les hommes selon le tempérament dominant, sans nuance, pour obtenir une réponse facile à mettre en œuvre. Parce que c'est le but. Nous verrons à la fin que même d'un point de vue médical, les quatre tempéraments ne sont pas une analyse juste. Mais même s'ils étaient une analyse juste, il faudrait faire des années et des années d'études de médecine pour étudier tous les fluides, les humeurs, dans toutes les proportions, qui sont variables à l'infini, et pour arriver à avoir une connaissance à peu près correcte du fonctionnement végétatif de l'homme. Ça n'est évidemment pas ce que cherchent les partisans de la méthode des tempéraments. Ils veulent mettre le candidat à un poste, ils veulent mettre les enfants, ils veulent mettre les amis, ceux avec qui ils travaillent, dans une case facile à déterminer, pour que ce soit facile de déterminer le comportement à avoir envers eux. Deuxième objection qu'on doit faire à la méthode des tempéraments, c'est de partir d'en bas et non d'en haut. C'est-à-dire que cette méthode part de la matière purement végétative pour définir comment l'homme peut être ami de Dieu. Parce que c'est bien ça la vertu chrétienne, vivre en ami de Dieu. C'est bien ça que prétendent les partisans de la méthode de tempérament. Ah, vous êtes mélancolique, alors voilà comment vous allez vous comporter, comme ça vous serez un homme vertueux. Vous serez agréable à vos confrères, vous réussirez en affaires, on vous ne marchera pas sur les pieds, on vous estimera, etc., etc. C'est évidemment à l'inverse qu'il faut procéder. Selon saint Thomas d'Aquin, ce que nous avons vu dans les sermons précédents, on part de l'amitié à développer avec Dieu, on descend de là à l'amitié à développer avec les hommes, on descend de là au comportement qu'on doit avoir, mais au comportement vertueux, et puis on finit tout en bas par mettre en œuvre les moyens disponibles. Procéder à l'inverse mène à un déterminisme. Si vous avez un tempérament mélancolique, vous êtes classé dans la catégorie mélancolique jusqu'à la fin de vos jours. Alors oui, on vous dira qu'on peut un peu influencer cela. Mais les partisans de la méthode des tempéraments ne cherchent pas tellement à les changer. Ils cherchent à adapter un comportement à un tempérament prédéfini, donné par la nature. Alors à cause de cela, bien entendu, puisqu'il y a une espèce de déterminisme, on perd la responsabilité morale. Ah, le pauvre petit chou, il ne faut pas le punir, il a un tempérament colérique, le foie est très fort, donc c'est normal qu'il se mette en colère. Ah, l'autre petit chou, il a un tempérament mélancolique, alors c'est normal qu'il soit paresseux. Non, je ne dis pas qu'il faut qu'il soit paresseux, mais il faut que j'admette qu'il ne peut pas travailler comme les autres et finalement qu'il soit paresseux. Alors, je viens de vous dire qu'à partir de l'analyse, de l'amitié à développer avec Dieu, et puis avec les hommes et tout cela, on mettait en œuvre les moyens disponibles. Alors, il y a une objection à faire. C'est donc que j'admets qu'il faut tenir compte des tempéraments. Alors là, nous y voilà. Si je vous réponds non, donc c'est pas à vous, mais bien cher frère, que je m'adresse encore, que j'espère qu'aucun d'entre vous... Enfin, faut peut-être faire un examen de conscience quand même, de temps en temps. Enfin, je veux dire, on ne tient pas des comptes des tempéraments. Ça n'a rien à faire, ça ne m'intéresse pas. C'est faux. C'est faux, puisque saint Thomas d'Aquin étudie l'activité végétative de l'homme. Oh, il ne lui donne pas beaucoup de pages, mais enfin quand même. Et puis, c'est faux, parce que je me présente en idéaliste. Enfin, vous me considérez comme un idéaliste. Et de nos jours, cela me conduira inévitablement à une dénonciation auprès des supérieurs, mes supérieurs, bien sûr, ecclésiastiques, même probablement des tribunaux, comme homme dangereux, qui impose ses propres vues, idéaliste, dogmatiste, à une pauvre humanité qui n'a que trop souffert d'une morale sectaire, de l'Église qui n'a jamais tenu compte de la réalité humaine, mais qui a eu tant de mal à sortir du carcan que l'Église lui imposait. Non, non, je n'exagère pas. Et là, je vous tiens un discours de gauchiste, mais hélas, c'est exactement ce qu'on constate, même chez des traditionalistes. À l'inverse, si je vous réponds oui, c'est la réponse qu'on attend, que je dise oui, alors à ce moment-là, on n'écoute plus mon discours, et on conclut que je vous donne raison sur l'utilisation de la méthode des tempéraments. Voilà. Même M. l'abbé Pivert est d'accord avec la méthode des tempéraments. Eh oui. Alors, comment faire ? Mais imaginez que j'ai développé une méthode d'amélioration morale des myopes. Cela vous ferait rire, n'est-ce pas ? La myopie crée une réelle difficulté par rapport à la connaissance sensible, la connaissance oculaire, enfin visible, je veux dire. Mais on peut lui donner toutes sortes de valeurs morales. On peut en tirer parti pour être plus attentif aux autres. Je vois mal, donc je dois être plus attentif. Soit parce que je porte des lunettes, soit parce que j'écoute la vie des autres, je me fais renseigner. On peut l'accepter, la myopie, comme un sacrifice à offrir à la providence divine. On peut en faire une source de colère contre Dieu, cause de cette infirmité. On peut en faire un atout pour se protéger du monde extérieur. C'est très bien que je sois myope, comme ça au moins je ne verrai pas les mauvaises affiches dans la rue. Comment voulez-vous que je développe une méthode pour les myopes ? Cette méthode existe déjà, c'est la morale chrétienne. Elle ne s'occupe pas des myopes, elle s'occupe du sacrifice, de l'humilité, de l'attention aux autres. Et puis, elle se sert pour cela, bien, du caractère, myope ou non. Mais pas seulement cela, de ce qu'on a bonne ouïe, de ce qu'on a bon odorat, de ce qu'on a bon toucher, le toucher compte beaucoup pour saint Thomas d'Aquin, etc. Eh bien, la myopie affecte l'organe sensible, donc on est au niveau des sens, tandis que les tempéraments ne sont même pas à ce niveau. Ils sont au niveau végétatif, c'est-à-dire bien inférieur. Comment voulez-vous qu'on développe une morale sur les tempéraments ? Le point suivant. Cette méthode est malhonnête. Lorsqu'elle attribue le même mot, je vais prendre un exemple, colérique, pour un tempérament végétatif, à savoir prédominance du foie, elle attribue le même mot à une passion sensible, à savoir propension à des réactions vives et non contrôlées, à un vice moral, à savoir qu'on passe de la propension à un comportement désordonné, et même à un péché, sans distinguer entre les péchés de colère de faiblesse et les péchés de colère de malice. Parce que ce n'est quand même pas la même chose de réagir vivement et de demander pardon aussitôt, ou au contraire, de nourrir la haine en la doublant par de la colère. Or, en donnant quelques vagues remèdes au vice, on valide le recours à la méthode des tempéraments. Vous voyez, puisque le médicament marche, c'est que le diagnostic sur la maladie était bon. Donc ma méthode est bonne, et alors c'est ainsi que le partisan de la méthode des tempéraments, c'est lui qui est un dangereux psychopathe, qui enfonce toute l'humanité dans une méthode qui n'est même pas digne d'un élevage de chiens. J'ai vu au cirque un clown qui faisait des démonstrations, enfin des tours, avec des chiens. Et dans tous ces chiens, un jour, il y a un chien qui a plus particulièrement compris son maître que les autres. Alors, ce clown a choyé ce chien, et ce chien fait avec son maître des tours extraordinaires. C'est pas une question d'être colérique, ni une question d'être lymphatique, puisque comme c'est végétatif, vous avez des animaux colériques, des animaux lymphatiques, des animaux sanguins, etc. On est bien à un niveau sensible là, et dirigé par la raison du maître. Donc la méthode des tempéraments n'est même pas bonne pour faire un tour de cirque avec des chiens. Enfin, j'accuse cette méthode de n'être même pas vraie au niveau végétatif, c'est-à-dire qu'elle est médicalement nuisible. Je pense, sans être médecin, que les humeurs, les fluides mériteraient peut-être d'être mieux étudiés, et cela ne m'étonnerait pas que la médecine chinoise s'en serve, mais pas en réduisant tout à l'eau, au feu, à l'air et à la terre. Parce que c'est ça les quatre tempéraments. Il y en a un qui relève de l'eau, l'autre du feu, le troisième de la terre et le quatrième de l'air. Me demandez pas lesquels, parce que ça n'a pas beaucoup de logique. Relisez les comédies de Molière sur les médecins. Conclusion. Ceux qui utilisent cette méthode, alors il faut que je fasse bien attention. Je ne vous vise pas en particulier si cette méthode vous plaît, parce que je sais très bien que même chez les traditionnalistes, cette méthode a la faveur de certains. Je ne suis pas là pour vous enfoncer, je suis là au contraire pour vous sortir d'un problème, et je vais vous montrer que ça a des conséquences en éducation et partout. Conclusion, ceux qui utilisent cette méthode donnent la main aux matérialistes, aux amis de Freud, aux partisans de la psychologie des foules, c'est-à-dire aux nazis avec la supériorité ou l'infériorité raciale, aux marxistes pour qui la vie n'est qu'une réaction chimique, ce qui n'est même pas vrai pour la vie végétative, alors allez faire un être vivant avec de la simple chimie. Conclusion. Une application aux autres méthodes faussement psychologiques. Et combien de mamans, même traditionnalistes, croyant bien faire, examinent le nombril de leurs enfants et justifient toutes sortes de caprices avec des ordonnances de psychiatres, de psychologues. Oui, je sais, les psychologues ne donnent pas des ordonnances. Enfin, quand même, c'est du véritable cocooning. Et ce cocooning légitime les caprices, la gourmandise, la paresse, ça légitime les caprices, sous prétexte de respecter le tempérament du pauvre petit chéri. J'ai eu récemment une affaire qui a mené à un divorce. La maman était perpétuellement chez le psychologue. Le père lui a dit, mais enfin, écoute, arrête, ça n'est que du caprice. La maman a dénoncé le comportement du mari au psychologue. Le psychologue a accusé le mari de nuire à l'épanouissement des enfants, et ça s'est terminé en divorce, qui, bien entendu, va être prononcé au tort du mari. C'est une évidence. Que va-t-il se passer? Le juge assez probablement va laisser les enfants au père la moitié des week-ends, la moitié des vacances. Seulement, la maman va être on ne peut plus inquiète de laisser les enfants dans les mains d'un tel psychopathe. Elle va le surveiller, ça va être encore pire que quand ils étaient mariés. Enfin, ensemble, je veux dire, parce qu'ils resteront toujours mariés. Et ce cas dont je vous parle, qui est très récent, est un cas chez des traditionalistes. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand je suis allé en Amérique, nous plaisantions en France, je suis allé au séminaire des États-Unis. Nous plaisantions en France parce que il paraît qu'au séminaire de la fraternité Saint-Pilice aux États-Unis, il y avait des distributeurs de Coca-Cola dans les couloirs. Je suis allé vérifier. Non, il n'y avait pas de distributeur de Coca-Cola dans les couloirs. Mais c'est comme s'il y en avait eu. La mentalité américaine avait tellement pénétré, même chez les séminaristes, qu'ils se comportaient comme ceux qui ont des distributeurs de Coca-Cola dans les couloirs. Et c'est une des raisons pour lesquelles le directeur du séminaire à l'époque a été si bien vu par notamment des femmes qui vraiment cherchaient à être des bonnes chrétiennes parce qu'elles se sont corrigées de tous ces vices que le directeur dénonçait. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce directeur a été si mal vu d'un grand nombre même de chrétiens qui n'admettaient pas qu'on dénonce les vices en question, parce que ce sont des vices. Alors, je pourrais faire le même sermon sur les méthodes d'apprentissage en fonction du cerveau reptilien, du cerveau gauche ou du cerveau droit. Tout cela procède du même état d'esprit. Je ne sais pas quel cerveau retient la musique et quel cerveau droit ou gauche retient les nombres, mais complètement égal. Enfin, vous comprenez bien que si je veux éduquer un enfant, à la musique par exemple, je vais commencer par choisir, savoir si je lui fais apprendre le grégorien, ou Bach, ou Beethoven, ou Schopenhauer. Je vais déterminer si je le lui fais apprendre cette musique sur un violon, un piano, une flûte. Moi j'ai fait de la flûte à bec. Très intéressant la flûte à bec, très très intéressant. Vous n'avez quasiment pas de moyens. Vous pouvez monter deux octaves très péniblement. Dès que vous soufflez un peu plus fort, c'est faux. Un peu moins fort, c'est faux. Alors, très beau timbre. Et avec ça, vous êtes obligé de faire la musique. Ah, je vous garantis, alors que là, vous apprenez à faire de la musique. Vraiment. Alors, il faut trouver les moyens de trouver l'expression par l'attaque, par le phrasé. Beaucoup le phrasé, très important. Et puis aussi, en jouant un petit peu sur la fausseté des notes. Après ça, si quelqu'un me dit que l'apprentissage se fera mieux avec, je sais pas moi, des diapositives, je profiterai des diapositives. Et puis si on me dit que la diapositive est reçue par le cerveau droit, je crois que je ne dirai rien, parce que ce soit le droit ou le gauche, ça changera pas grand-chose pour moi. Ah oui, si quelqu'un a un problème parce qu'il a eu un traumatisme crânien, ah oui, alors là c'est tout à fait différent, nous irons voir le médecin. Enfin, on n'est plus dans le domaine moral, on est dans le domaine médical. Voilà, mes bien chers frères. Alors n'oubliez pas, je vous mets un lien pour télécharger un test de personnalité. J'aimerais bien que vous le remplissiez, les jeunes hommes particulièrement, parce que ça me permettra de remplir mon prieuré, de savoir qui convient, qui ne convient pas. Et puis, tous les autres tests, les personnes que j'aurais éliminées pour remplir le prieuré, j'espère avoir suffisamment, comme je vous le disais, de jeunes hommes et de jeunes filles. Et à partir d'une cinquantaine ou une centaine de tests, je pense que j'aurai ce qu'il faut pour ouvrir une agence matrimoniale. Pour remédier à tout cela, mes bien chers frères, préparez-vous bien à la venue du bon enfant Jésus à la crèche, demandez à la Sainte Vierge de vous y aider, et puis demandez à Saint Joseph également, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.